19h, 20h. Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi soir. Et oui, jeudi 18 février 2021, nouveau numéro de Time Sport, votre quotidien sportif sur les ondes de Beurre FM. Au menu de cette émission ce soir, on verra, et oui, le duel Mbappé-Haaland, deux attaquants, une seule place au Real Madrid. Adrien Mathieu, un journaliste qui sera avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, sera notre invité dans cette émission Time Sport. Marseille qui a renoué, et oui, avec la victoire ce mercredi face aux Niçois. Lille, Ajax, le LOSC peut-il jouer sur plusieurs plateaux, notamment en Coupe d'Europe, et sans oublier aussi le biathlon et le relais mixte français, médaillé d'or. Voilà de quoi nous allons parler ce soir dans cette émission. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et aussi la twittosphère avec notre community manager Farid Rouas qui est toujours là, prêt à dégainer l'info sportive rien que pour vous. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir, justement, avec moi, pour m'accompagner, on aura Toto Bellozzo. Comment ça va, Toto?
Salut, Bilal, comment tu vas?
Ça va très, très bien, Toto. Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas eu c'est sur vrai, l'antenne de Beurre FM.
Bah, écoute, je lis des gros bouquins, donc pour pouvoir faire une chronique, on va dire, qui tient la route, bah, je suis obligé de m'absenter le temps de lire les livres.
On aura cette fameuse chronique littéraire ce soir.
Exactement.
Bien sûr.
Et on va parler d'une grosse machine qui broie les hommes, qui broie les joueurs, le football, à travers le livre d'Éric Champagne.
Ah ben ça, ça promet. On aura le coach Tollet aussi dans cette émission. Comment ça va, Claude?
Bonsoir tout le monde, ça va bien?
Tu vas bien?
Ouais, bien, tranquille.
Tranquillement?
Tranquille.
Ouais.
Ouais.
Mourad.
Le soleil tunisien.
Ah, le soleil
tunisien. Hier soir. Eh oui. Eh oui, on en reparlera.
C'était les Kivers à Tunis?
Non, non, le soleil tunisien du côté de l'Orange Vélodrome.
Ah oui, effectivement.
Eh oui.
Autant pour moi, désolé.
Eh oui, on avait parié sur ce joueur avant, à l'époque, avec le coach Tollet. Mourad, voilà, que vous avez pu entendre. Comment ça va, Mourad?
Ça va très bien.
Ben, ouais.
Ravi de pouvoir débriefer avec Toto, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps.
C'est ça.
Grosse soirée européenne hier avec le match olympique de Marseille au GC Nice.
Ouais.
Pressé d'en découdre.
Ah ben c'est parti. Le premier sujet de cette émission, allez, qui nous amène tout droit du côté de la capitale espagnole.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, ça excite justement ce duel Mbappé-Haaland, toute l'Europe et aussi grosse colère d'un Cristiano Ronaldo. Et pourquoi donc? Eh oui, les jeunes pépites du football européen, voire mondial, sont en pleine effervescence et ça évolue bien, Mourad. Ça évolue bien, le Real Madrid. Qui pour Mbappé ou encore Haaland, les bookmakers sont déjà prêts sur les starting blocks, c'est-à-dire que peut-être Haaland serait beaucoup plus bénéfique que la star et l'international français Kylian Mbappé.
Ben, je pense que déjà ce serait une question de prix. Je pense que s'il avait possibilité, Zinedine Zidane ou le Real Madrid, de prendre les deux, ils auraient pris les deux. Et ensuite, il faut qu'il regarde son effectif actuel. Je pense qu'il doit regarder Karim Benzema. Je pense qu'aujourd'hui, le plus compatible avec Karim Benzema, ce serait éventuellement Haaland. Naturellement, ça pourrait replacer Karim Benzema à un poste de deuxième attaquant, tel qu'il a pu s'exprimer à l'époque de la BBC. Et je pense que Mbappé aujourd'hui, et je pense que voilà, Mbappé aussi pourrait être intéressant, mais je pense que Haaland est vraiment le plus compatible avec l'effectif actuel du Real Madrid et permettrait à Benzema et aux autres joueurs autour de pouvoir mieux s'exprimer. Je pense que le Real Madrid aujourd'hui recherche un véritable numéro 9.
Ouais.
C'est ce qui leur manque.
Toto,
ouais,
du même avis peut-être que Mourad.
J'aurais du mal à contredire ce qu'il vient de dire.
Ouais.
Maintenant, moi je pense que que ce soit avec Haaland ou avec Mbappé, je pense que le Real Madrid veut renouer avec une certaine époque où il récupère le ballon avec une projection très rapide vers l'avant. On se rappelle de l'époque un peu Cristiano, Benzema avec Gareth Bale. Et que quoi qu'il arrive, que ce soit Haaland ou Mbappé, on sera dans à peu près dans le même type de joueur, dans la projection et de peser vraiment sur les équipes adverses. Maintenant, la vraie question que je me pose, c'est de savoir comment l'un et l'autre peuvent être compatibles avec le championnat dans lequel ils vont évoluer. C'est-à-dire que je pense qu'Mbappé correspondrait peut-être plus à un club de Première Ligue qu'à un club de Liga qui finalement est beaucoup plus dans le jeu, beaucoup plus joueur. Alors que on sait la grosse force de Kylian Mbappé, ça reste quand même la contre-attaque, la projection vers l'avant, l'espace derrière la défense. Et ça, malheureusement, je pense qu'il le trouvera, je vais pas dire pas, mais moins.
Après, le Real a beaucoup joué comme ça, en contre-attaque. Et j'ai l'impression qu'avec Mbappé, il n'y a pas de vérité absolue. Moi aussi, je pensais que potentiellement, il serait plus compatible avec la Première Ligue. Mais avec ce triplé face au FC Barcelone, on a l'impression que on change d'avis à chaque fois pour Kylian Mbappé, et que surtout quand il sait justement se remettre en question et jouer avec son registre. Mais le Real Madrid a déjà évolué en compte. On se souvient qu'il a gagné des Ligues des Champions comme ça.
Bien sûr.
Donc je me dis à voir. En tout cas, moi personnellement, je serais plus pro Haaland si je devais choisir entre les deux, parce que ça permettrait, pourquoi pas, de pouvoir permettre à Karim Benzema de finir en qualité, pourquoi pas, de meneur de jeu ou de deuxième attaquant. Et je pense qu'il pourrait faire des dégâts, Haaland, tout simplement, en Liga. Je sais pas ce que vous en pensez.
Haaland, il est plus, en fait, il a une palette plus étendue, sur, alors, voilà, sur ses points forts, je pense que Mbappé reste devant Haaland, mais la force d'Haaland, c'est d'avoir une palette beaucoup plus étendue, ce qui pourrait lui permettre de s'adapter peut-être un peu plus au championnat de
Espagne. Il n'a pas la première touche de Mbappé. Hein. Il a beaucoup d'avantages, mais ses lacunes, c'est notamment sa première touche.
Ouais.
On l'a vu hier à Séville, où là, parfois sur sa première touche, il se l'emmène mal, il a du mal. Je pense qu'en Liga, ça peut lui porter préjudice, parce que les défenses jouent bas. Ça passe souvent devant les adversaires, même s'il a fait des dégâts aussi à Séville. Mais je pense qu'Mbappé, il a un avantage sur lui là-dessus.
Ah oui, tu penses, le Français.
C'est
ouais.
Mon avis. Hein.
Honnêtement.
Alors,
moi, si je devais.
C'est pour toi,
si
Toto Bellozzo. Avant d'avoir l'avis de Claude.
Dans la peau de l'agent d'Mbappé, je l'enverrais directement en Première Ligue dans un club comme Liverpool ou Manchester. Je pense que là, pour le coup, s'il a envie de casser la baraque et de prendre ce qu'on lui prétend, hein, le trône.
J'ai pas envie que ça devienne un Adama Traoré bis en partant en Première Ligue. Je sais que.
Oula.
Non. C'est l'impression que je peux avoir.
Alors.
C'est l'impression qu'il peut prendre du physique là-bas. Ça peut devenir un sprinter, limite un quarterback. Et du coup, ça pourrait atténuer les qualités pour lesquelles on l'apprécie en Ligue 1 ou en Champions League actuellement au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire la projection rapide vers l'avant, mais aussi participer au jeu. Et j'ai l'impression qu'en Première Ligue, ça va le dénaturer un peu plus.
Oui, le côté tollé, justement, Haaland, ouais. Mbappé.
Oui.
Duel au sommet.
Eh après, il faut être.
Les jeunes du football mondial.
Je reste mesuré parce qu'on essaie de les comparer. Alors c'est des gamins extraordinaires. Mbappé, il y a encore quelques temps, il était critiqué. Et puis là, il a fallu un triplé pour mettre tout le monde d'accord. Chose qui ne m'étonne pas au vu de la qualité du joueur. Maintenant, il faut être. Faut être patient. À vouloir les comparer déjà, ce que je veux dire, déjà les comparer à CR7 et à Messi, attendons.
On est d'accord.
Attendons, parce que là on parle.
Pas.
Là, on te parle quand même de mecs qui ont marqué le football moderne. Ça voudrait dire qu'il faut que ces gars-là soient capables, sur 10-12 saisons, de mettre.
C'est 11 ballons d'or à eux deux, quand même.
De mettre 60 buts par saison dans la mesure où ce sont pas. Oui,
je pense que le football a besoin de nouvelles têtes d'affiche. On le voit, on l'a encore vu hier et avant-hier. Les deux têtes d'affiche actuelles s'essoufflent, notamment Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à Porto. Là, les médias ont besoin de créer deux monstres, même si. Pour moi, les comparaisons n'est pas forcément raison.
Il y a
João Félix, peut-être l'Atlético Madrid. Il y a peut-être pas Phil Foden à Manchester City.
Mais c'est
deux têtes d'affiche.
Ouais.
En tout cas, on se doit justement de les comparer parce que
ils sont impressionnants.
Ils sont impressionnants en Ligue des Champions. Quand tu regardes les stats,
les gars confirment déjà au très très haut niveau.
Même si je suis pas fan des stats, hein. Mais
il y a une vérité quand même.
Ça indique une tendance.
Bien sûr. Surtout
on est d'accord qu'on est face à deux joueurs dont on parle au passé.
Ouais.
Enfin, on va commencer de plus en plus. Enfin, on y est déjà à parler au passé de Cristiano et de Messi. On est d'accord. Et pour le coup, Haaland.
Là, on en parle à l'imparfait bientôt, au passé simple. Enfin,
ouais,
j'espère pas,
c'est
mais.
Ça, ouais, on est d'accord. Mais sur le fait que, voilà, Mbappé et Haaland, on est en train d'en parler au futur. Alors que moi, je dis qu'il ne faut pas en parler au futur. Il faut parler simplement au présent.
Tout à fait.
Parlons du présent, de ce qu'est Mbappé, de ce que représente et du potentiel.
Mais est-ce qu'on peut les comparer au présent, Toto? Parce que qui initie ce débat de comparaison, c'est Haaland. C'est Haaland qui remercie Mbappé justement de lui avoir indiqué le ton et de l'avoir motivé à aller marquer ses deux buts à Séville. C'est lui qui en parle.
Hein. C'est normal. Ils sont
on peut débattre autant qu'on veut, mais c'est Haaland qui lance ce débat-là.
Ouais. C'est pour ça que, ce que je remets en question, c'est non pas les joueurs eux-mêmes, mais c'est la posture des médias. La posture des médias qui sont toujours là à vouloir survendre un futur qui n'est pas encore écrit et qu'il faut laisser le temps d'écrire à ces jeunes. Moi, quand on a ce genre de discours, on a l'impression d'être un anti-Mbappé ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Moi, j'ai envie qu'on laisse le temps aux joueurs de s'affirmer et de construire ce dont on leur prétend. Alors que là, on aime bien construire. Enfin, voilà, Mbappé a fait un match magnifique, a marqué un triplé, et on est déjà en train de parler de passation de pouvoir. Alors qu'il y a une semaine, il était en plein doute.
Non, c'est vrai que ça va très vite. Et c'est passé justement. Il était à la croisée des chemins, Mbappé. Il avait soit le choix de devenir une version pâle de Neymar, soit prendre ses responsabilités et devenir le Neymar, le Mbappé, pardon, qu'on attendait tous, c'est-à-dire qu'il joue dans ce registre avec ses qualités. Et j'ai l'impression qu'il a fait une copie, qu'il a rendu une copie excellente pour FC Barcelone. Et c'est là qu'on l'attend, et c'est là qu'il est efficace.
C'est là où on
attend. Haaland, il a 2 ans de moins que moi, que 2 ans de moins que Mbappé, mais Haaland, il dénature pas son jeu. Haaland, il joue avec ses qualités, il a une première touche qui est pas top, mais c'est un bouffeur d'espace. Il a une frappe de mule, il est toujours bien placé, il fait des appels dans le dos de la défense. Donc Haaland, il est friand de tout ça, justement, de ses comparaisons. Il est présent en Ligue des Champions, même si l'année dernière, face au Paris Saint-Germain, il avait été fantomatique. Mais je pense que le monde du football, on doit surfer sur cette vague et a besoin de ces deux têtes d'affiche.
Mais Haaland, justement, c'est l'avantage qu'a Haaland sur Mbappé, c'est que justement, il est beaucoup plus tranquille, beaucoup moins regardé, beaucoup moins attendu. Et il a le temps de continuer à être dans cette spontanéité, alors que Mbappé, on sent qu'il y a une grosse pression, qui s'est mis tout seul.
Haaland, il est international norvégien.
Voilà.
Il y a des éléments de comparaison, mais il y a beaucoup de désavantages pour Mbappé, c'est vrai.
Pourvu qu'il nous donne du spectacle.
Exactement. Ouais, le spectacle. On en a eu.
Non, pour en revenir Mbappé, à Mbappé, je disais avant le match, notamment mardi, que contrairement à ce qu'on entend, c'est que Mbappé, pour moi, continue à progresser. Faut savoir, ce n'est pas parce que tu as un coup de moins bien comme il l'a eu que tu ne progresses pas. Alors nous, visuellement, c'est vrai qu'on a envie, tu vois le mec sur le rectangle vert, t'as envie qu'il mette des triplés à chaque fois. Le football, c'est pas ça. Le très haut niveau, c'est pas ça. C'est le mental. C'est dans ces moments difficiles que tu vois. Et je suis même persuadé que le gamin s'est remis en question. J'entends qu'apparemment, oui, son corps a évolué, etc. On entend tellement de choses, mais c'est dans ces moments-là que l'on voit. Et comme l'a dit Mourad, la réponse, elle est venue. Ça fait déjà depuis 10 jours. Hein, déjà à Marseille, tu commences à voir qu'il retrouve ses jambes, etc. Et là, c'est vrai que il a mis quand même tout le monde d'accord. Maintenant, à lui de confirmer. Mais il faut savoir que les grands joueurs se remettent en question lorsque c'est un petit peu moins bien. T'as besoin d'avoir des moments de trous comme ça. C'est vrai que Messi et Ronaldo n'ont pas trop eu, quand on voit leur carrière aussi.
Ben, un grand joueur, ça a des coups de moins bien, mais c'est la résilience qui qualifie un grand joueur. Et Mbappé, il l'a prouvé, justement.
Il l'a prouvé.
Moi, je l'attendais justement sur ce match PSG-Barcelone. Pour moi, c'était le match charnier. Et là, pour moi, il a montré que c'est un grand joueur.
Mais après, faut pas être étonné.
Je dis pas que c'est le meilleur joueur du monde, hein. Il y a d'autres joueurs. Hein.
Faut pas s'étonner qu'ils auront encore d'autres coups de moins bien. Ça continuera, ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça.
Et en Angleterre, on parle de Phil Foden, par exemple. Je ne sais pas si c'est sur le même prisme. En France, on voit beaucoup Mbappé, mais en Angleterre, on ne jure que par Phil Foden.
C'est vrai.
Mbappé aussi, il est aimé, Mourad.
Oui, non, Mbappé est très apprécié. Il y a même des maillots du Paris Saint-Germain qui se baladent à Londres depuis récemment. À l'époque, j'en voyais pas, mais avant, déjà, en termes de, enfin, il y a Marcus Rashford et il y a Phil Foden qui sont devant Mbappé.
Un petit clin d'œil à Yacine qui nous écoute et justement qui était bien d'accord sur le cas d'Haaland avec toi, Toto Bellozzo. Oui.
C'est bien la première fois que Yacine sera d'accord avec moi.
C'est ça.
Une fois qu'il me tacle pas les deux pieds élevés, non pas par derrière parce que c'est pas le genre à tacler par derrière, mais c'est généralement, je reçois plus de tacles que de compliments, donc ça fait plaisir.
Ce qui va être intéressant dans leur carrière, en tout cas, concernant Haaland, qui est norvégien, comme on l'a dit, il y a jamais eu de vraie grosse génération, excepté peut-être la Norvège de 98, avec André Flo, etc. John Carew. La Norvège n'est pas une grosse nation de football et ça va être intéressant de voir est-ce que justement il permettra peut-être à la Norvège de franchir un cap à l'échelle européenne, voire mondiale. Ça peut être intéressant.
Je ne sais pas si ça suffit, on le verra de toute façon à l'euro.
Tu vas en compter combien, tu vois ce que je veux dire.
Le Danemark a réussi à son époque à être une nation parmi les nations dans le football. Pourquoi pas la Norvège ? De toute façon, le football montre tout le temps que beaucoup d'équipes attendent qu'une seule chose, c'est de bousculer les hiérarchies. On a des grandes nations qui sont parfois sur le déclin et puis des petites nations qui vont peut-être éclore à travers certains joueurs et certaines générations, pourquoi pas. En tout cas, moi, je le souhaite.
Oui.
Tout à l'heure, j'avais parlé justement d'Mbappé en allant en Premier League, qui pourrait devenir un potentiel Adama Traoré. J'avais dit quarterback.
Quarterback.
En fait, non, c'est running back ou bien receveur, autant pour moi.
De toute façon, on n'était pas choqués.
Ça
te fait rien.
J'évalue vos connaissances en
quarterback, running back.
Tu nous as testé.
Justement, t'as prouvé comme ça. Tu nous as prouvé du regard. Donc,
Non, mais moi, ça m'a tellement choqué que tu
plonges dedans.
Moi, ce qui m'a choqué là-bas, c'est que tu compares Adama, Mbappé à la. Bloqué là-dessus. Après le reste,
c'est un peu de la provoque, mais on sait le joueur qu'Adama Traoré est devenu en allant du côté de Wolverhampton en Premier League. Une machine à contre.
Remember the Titans. Ça, c'était un magnifique film avec Denzel Washington. Voilà. Si tu parles de running back, de quarterback et tout, je te le conseille. Vraiment, tu aimeras. Selon tes goûts aussi, concernant le cinéma. L'équipe de France de biathlon. Oui.
Moi, je suis plus film français des années 50.
Ah, oh, ben, c'est pas mal, c'est pas mal.
Non, c'est pas vrai, je plaisante. Ouais.
Ah, mais moi, j'aurais bien aimé frimer.
J'ai fait Jean-Gabin, Fernandel, j'ai commencé moi.
Traversé de Paris.
Voilà, ça, c'est vrai.
Tous ces films-là, Fernandel, Bourville.
C'est pas mal.
Classique.
Avec l'un des meilleurs diagonistes français, Michel Audiard. Voilà. L'équipe de France de biathlon. Aborder le relais simple des championnats du monde avec confiance, justement, ce jeudi 18 février à Pojduka, justement, en Slovénie. En Slovénie, oui, tu peux aller. Et ils ont eu raison, vraiment. Julia Simon, Antonin Gugona se sont quand même parés d'or sur le relais mixte simple. Bravo à eux. Bravo. Qui regarde le biathlon? Parce que chez nos confrères de l'équipe, quand même, on met en avant ce sport-là. C'est une simple question, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs, d'auditrices qui le font aussi, qui le regardent les après-midi, les week-ends aussi. Et même durant les Jeux Olympiques. Côte Tolé, ils me regardent comme si je parlais des Martiens. La NASA a fait atterrir sa fameuse voiture.
Je suis tombé, moi, sur la discipline.
Petit bolide du côté de la planète Mars.
Qui était en train d'enchaîner les performances et les médailles.
Ouais.
Je sais que au niveau français, on fait partie des meilleures nations. Après, je sais que la Norvège, là, pour le coup, excelle aussi, mais bon...
Quand même, c'est le deuxième sacre des tricolores au sein de ces mondiaux.
J'ai du mal à tenir sur les skis.
Ouais.
Je reste limité.
Et il nous vient tout droit de Göteborg, en plus. Oui, Mourad, à dire, peut-être.
Il ne le sait pas forcément, Claude, mais c'est un grand pratiqueur de biathlon. Quand il arrive, avec tous les chemins qu'il parcourt ici, pour arriver en RER, ski de fond, tir à la carabine, jouer des coudes dans le métro...
C'est pas bien.
Il s'y connaît un peu.
Toto Bellozzo,
Écoute, moi je suis un peu un mauvais élève et je vais souligner quelque chose qui est pas bien du tout. J'ai comme l'impression de m'être appauvri dans la diversité des sports que je suis avec le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand j'étais jeune, j'arrivais à regarder le Tour de France, Roland Garros, de suivre tous les types de compétitions qui pouvaient exister, de regarder du ski de fond à la télé. Chose que je fais de moins en moins. Et je me cantonne à regarder quasiment que du foot. C'est vrai que d'un point de vue culturel, c'est un peu pauvre ce que je fais et tu fais bien de le souligner. Je vais regarder du biathlon.
Parce qu'on n'a plus le temps en fait. On est aujourd'hui, c'est pas pour faire mon sociologue, mais on est soumis à l'impératif de production. Donc du coup, on peut plus.
On peut plus regarder,
sur d'autres choses.
On va faire une courte pause et on reviendra avec l'Olympique de Marseille, ça c'est promis. Et aussi Adrien Mathieu, notre invité ce soir.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour avec toute l'équipe de Time Sport dans cette émission. Du lundi au vendredi, on le rappelle, 19h-20h. Vous pouvez composer le 01-53-48-3000. Yanis, notre réalisateur, vous fera passer à l'antenne. Allez, c'est parti pour la fameuse chronique littéraire de notre Toto Bellozzo.
La chronique littéraire de Toto Bellozzo.
Eh oui. Et il va nous faire voyager, Toto Bellozzo, hein. Ah, il aime bien. Elle est pas mal, cette chronique. La machine à broyer d'Éric Champel aux éditions Solar, Toto Bellozzo.
Exactement. D'ailleurs, je suis content de voir que maintenant j'ai ma petite intro, le petit générique. la rubrique de Toto Bellozzo. Ça fait plaisir. Écoute, on va parler d'un nouveau livre aujourd'hui.
Alors.
Voyager, je sais pas si aujourd'hui on va voyager, mais en tout cas on va s'éclairer à la lampe d'Éric Champel pour découvrir un petit peu les dessous du football, non pas du football professionnel, parce qu'on a un petit peu l'habitude, on a déjà eu des ouvrages sur les dessous du football professionnel, mais là finalement on va découvrir un petit peu les porosités qu'il y a justement entre ce monde professionnel et le monde amateur à travers toutes les dérives qu'entraîne cette porosité à travers la finance du football. On est bien d'accord que ces dérives ne sont à chaque fois liées quasiment qu'à ça.
Il y en a pas mal, malheureusement. Toto.
Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et Éric Champel, qui est pas à son coup d'essai, hein. C'est quelqu'un qui a participé à faire émerger ce qu'on appelle le Qatargate, hein. Donc là, il est dans une posture qui est un petit peu, dans l'investigation de ce football. Et, moi, j'ai eu un peu de mal à préparer cette chronique parce qu'il y avait tellement de choses à dire. que je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir rentrer tous les détails que j'ai envie de faire rentrer dans cette chronique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est vrai que ce livre parle dans le football amateur de beaucoup de choses, de plein d'angles différents. Aussi bien ce que lui il appelle dans l'un des chapitres la foire aux bestiaux, en parlant de la posture un petit peu malsaine qui peut se passer à travers des détections où on voit énormément de joueurs, où finalement le joueur n'est vu que comme une marchandise. On
a déjà posé les joueurs comme des bêtes de foire.
Exactement. On parle de malversation, de conflits d'intérêts, on parle même de rackets et de menaces, hein. Et c'est vrai que c'est un livre qui brosse énormément de choses, énormément d'aspects négatifs pour le coup. Et je trouve ça intéressant parce que je l'ai déjà souligné dans une autre chronique, le football business, depuis la fin des années 80, début des années 90, est une grosse machine qui va de l'avant sans jamais s'arrêter. Et avec cette crise Covid, on a eu une machine du football business qui s'est un peu enrayée et qui s'est arrêtée. Et pour le coup, ça nous donne l'occasion de non pas regarder toujours vers l'avant, mais là de s'arrêter et de regarder vers l'arrière et de voir un petit peu les dégâts qu'engendre cette machine. Et c'est vrai que quand on parle de le foot, la machine à broyer, on broie quoi, clairement? On broie des hommes, on broie des joueurs.
Ouais,
et que pour la réussite d'un joueur, on a très souvent énormément de jeunes joueurs sur qui on a spéculé parfois, qu'on a parfois mal orienté, parfois sur qui on a profité, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'Éric Champel essaye de mettre en lumière à travers ce livre qui est quasiment 400 pages. Il y a 400 pages sur tous ces aspects différents, hein. Il y a quasiment une quinzaine de chapitres. Et voilà, j'ai pas envie de rentrer vraiment dans les détails du livre, mais vous donner l'envie d'aller chercher un petit peu ces informations dont on a très peu souvent accès et qu'on met en lumière. Seul bémol
ouais.
dans l'écriture de ce livre, c'est une petite contradiction que j'aimerais soulever et que je trouve dommage, c'est la mise en avant d'un seul club au travers de tous les chapitres qui ont été énumérés. C'est vrai que le club de Montfermeil ressort, enfin le nom du club de Montfermeil ressort dans le livre. On en parle comme étant un club dont les dirigeants contrôlent tout de A jusqu'à Z. Et ce que je trouve dommage, c'est que justement ce type de contrôle de A jusqu'à Z, c'est-à-dire que en fait ce qui est souligné, c'est-à-dire que finalement les dirigeants du club supervisent
ont un pris parti justement dans la revente des joueurs,
supervisent l'ensemble des composants des joueurs. C'est un club qui a beaucoup évolué en très peu de temps, qui a beaucoup de réussite. Aujourd'hui c'est l'un des clubs qui signe le plus de joueurs en centre de formation professionnelle. Et c'est vrai que finalement, en soulevant toutes ces problématiques dans le livre, en disant qu'il faut pas laisser le loup entrer dans la bergerie, que les clubs amateurs doivent être des sanctuaires bien protégés parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts parfois pas sains du tout, et là pour le coup
c'est tout à leur honneur du coup.
Voilà, du coup moi j'ai plus l'impression qu'il faut dire que les dirigeants de Montfermeil font bien leur travail en essayant de protéger un maximum. Alors qu'il y ait des dérives ou pas, moi je suis pas là pour le dire, mais en tout cas qu'on essaie de protéger les joueurs à travers une réussite. Faut pas oublier que Montfermeil reste un club qui compose avec des difficultés géographiques, sociales et ainsi de suite, et que cette réussite peut aussi attirer des gens qui sont pas forcément faciles,
bien intentionnés
et bien intentionnés. Donc c'est ce que je trouve dommage. Le livre, très honnêtement, moi je vous invite vraiment tous à le lire, parce que il mérite d'être lu, parce que c'est des problématiques qu'on n'aborde jamais. C'est un peu les secrets de Polichinelle, c'est l'omerta sur le football. Et là, pour le coup, il y a quelqu'un qui jette un pavé dans la mare et qui vraiment se lance dans une vraie investigation en soulevant des problématiques qu'il faut, je pense, de plus en plus soulever, parce qu'elles nuisent à qui ? Aux jeunes. Hein, le jeune est considéré comme une marchandise, le jeune est considéré comme un produit de spéculation, et il est laissé très souvent au bord de la route. C'est-à-dire que pour un Mbappé, il y a peut-être 1000 pseudo Mbappé qu'on va peut-être sacrifier.
Peut-être qu'il y a 1000 Mourad, quoi. Ouais. Derrière un Mbappé, il y a 1000 Mourad.
Oui, Mourad. Ouais. La preuve, on finit bien, parce qu'on finit à Beurre FM.
Ça va, tout va bien. Je parle footballistiquement parlant.
Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est un livre que j'invite vraiment à lire. Le foot, enfin foot, la machine à broyer, aux éditions Solar, écrit par Éric Champel.
Ah ben c'est super, ça. Voilà. Aux éditions Solar, comme tu viens de le dire. Un magnifique livre, on le conseille à toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Peut-être, oui, Claude Tollé, quelque chose à rajouter, ou même toi, Mourad, avant de passer à notre invité.
Ça peut être intéressant, surtout quand on a envie d'en savoir plus sur la machine football, ce que c'est. Ce n'est pas que voir les matchs de Ligue des Champions et s'enflammer. C'est bien de le faire, mais pour ceux qui s'intéressent, c'est un peu l'image aussi de la société, c'est d'en savoir un petit peu plus de ce qui se passe réellement.
Ouais.
Et tout n'est pas rose, malheureusement, mais ça, on le voit.
La transition est parfaite. On espère en tout cas la vie en rose du côté de la cité phocéenne. Eh ben, nous rejoignons Marseille.
Timesport, la victoire.
Eh ouais, je vais commencer à y croire, c'est ça. Quand on parle de Marseille, ça bug sur la régie. Il y a un petit problème. Et quand ça parle de Madrid ou encore de notre club, ça bug jamais. Mais ça ne fait rien. Pour en parler, justement, on aimerait s'attarder ce soir avec un invité de marque, Adrien Mathieu, journaliste et aussi créateur des podcasts dédiés à l'actualité des jeunes joueurs et centres de formation. Et oui, le Formation Football Club. Bonsoir. Comment allez-vous, justement, notre invité, Adrien Mathieu?
Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être avec vous ce soir.
Ah ben nous aussi. Mathieu, on aimerait s'attarder avec vous justement sur le cas de l'Olympique de Marseille. Ah ben grand vainqueur hier face à l'OGC Nice. Marseille qui a renoué à la victoire ce mercredi en Ligue 1, Uber Eats. Qu'en pensez-vous, Mathieu?
Ben écoutez, c'est vrai que depuis plusieurs semaines, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est un peu le chaos. On a vu les incidents à la commanderie, le départ d'André Villas-Boas mis à pied par sa direction, et une équipe qui était un peu dans le flou. Hein. On l'a vu, des résultats sportifs qui n'étaient pas forcément là. Mais j'ai l'impression qu'avec le match de Bordeaux, le fait d'avoir tenu à 9 contre 11 pendant 30 minutes, d'avoir un entraîneur comme Nasser Largué, qui est là vraiment pour le bien du club, comme il l'a répété, qui a un discours, je trouve, plutôt sain. D'ailleurs, les joueurs l'ont dit, hein, peut-être Mandanda se sent bien avec lui, d'autres, voilà, il apporte peut-être une forme d'apaisement dont il y avait besoin en cette période. Et le match de Nice, ça vient récompenser ces efforts-là, parce que je pense que l'OM avait besoin de cette victoire pour rebondir avec des joueurs qu'on n'attendait pas forcément.
C'est vrai, Kraoui.
Oui, voilà. Kraoui, par exemple, qui a souvent été un joueur oublié par Villas-Boas. Alors, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'il était là, remplaçant. On ne savait pas trop quel était son réel apport du côté de l'OM. Mais c'est bien aussi, c'est ça. Le changement d'entraîneur, ça approche toujours à d'autres joueurs, d'autres jeunes. Et Raoui a su saisir sa chance avec brio lors de ce match de Nice. Mais je pense qu'il y a du Enrique, à Dieng, il y a du potentiel, je sais
pas. Ouais. Pas faux. Alors, on a une réaction. Allez, Adrien, avec notre consultant, Mourad. Non, on t'écoute, Mourad.
Je suis d'accord avec ce que dit Adrien sur, notamment sur Nasser Larguette. On a l'impression que Nasser Larguette revient à des fondamentaux qui sont, notamment dans le football, qui sont très importants, qu'on voit beaucoup sur le football amateur, mais qu'on a l'impression qu'on voit de moins en moins dans le monde professionnel. C'est la méritocratie. En lançant les Kawi, notamment, on a l'impression que c'est la méritocratie qui prime, alors qu'avant, peut-être sous Villas-Boas, c'était plus les statuts qui comptaient. Et donc là, justement, la première mi-temps était assez intéressante. On a vu beaucoup de fraîcheur, notamment avec Kawi, avec Alvaro, avec le milieu de terrain aussi qui était intéressant, avec le jeune Dieng aussi. Donc il y avait beaucoup de fraîcheur, beaucoup de choses positives qui ont été mises en avant, beaucoup d'intensité. Et je pense que c'est ce qu'on voulait voir. Et bizarrement, moi personnellement, j'ai ressenti un déclin avec la rentrée de Florio Thauvin et de Valère Germain. Donc on a l'impression que Nasser Larguette se trompe pas forcément là-dessus. Donc voilà, donc moi j'apprécie ça, la méritocratie c'est important, et je pense que ça doit être un des fondamentaux du football.
Allez, c'est on va revenir à Adrien.
J'ai souvent entendu dire que l'effectif de l'OM était moyen, plus que moyen. Moi, tu finis pas deuxième avec un effectif, pour moi, juste ou moyen. Et c'est vrai que là où a été fort le Nasser Larguette, c'est que il le dit clairement, les statuts, etc. Non, c'est à l'entraînement. Et là, ce qu'il a fait de mettre Dieng, par exemple, titulaire, de mettre Luis Enrique titulaire, la deuxième titularisation de Raoui depuis 2016. Franchement, chapeau pour ce type de joueur. Les gars, ça fait 4 ans qu'ils attendent.
J'aime bien ta prononciation tunisienne de Kawi, c'est génial.
Ouais.
Ça nous fait voyager.
Et c'est vrai que ça redistribue les cartes. Enfin là, tout de suite, tu te dis que. Tu te dis quoi, il y a un truc à faire, et t'avais des mecs qui étaient là, qui attendaient, et lorsque tu as la confiance d'un mec qui apporte quelque chose de sain, là on s'étonne, mais il y a rien d'étonnant. Et là tu te dis, mais Villas-Boas, comment dire, le confirmait. Enfin, lui, justifiait.
Il jouait, hein, sous Villas-Boas. Non, mais lui, il était pas totalement absent. Il a joué.
Ouais, mais il disait, moi, j'ai un 11, j'ai fini deuxième avec une ossature. Même si les mecs sont un petit peu moins bien, je compte quand même sur eux.
C'est important de pouvoir les challenger aussi quand ils ont des
points bien.
J'ai l'impression que là, bah, ils rongeaient un peu sur le frein.
Alors, Adrien, réaction, c'est marseillais.
Ouais. Écoutez, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites autour de
le coach Etolé.
L'apport d'un Alassane Larry, c'était vraiment, je pense, fondamental. Et c'est vrai qu'il y a cette question des statuts. On l'a beaucoup vu avec Valère Germain et Florian Thauvin, qui n'ont pas forcément été à leur avantage sur les dernières semaines. Et c'est bien aussi, de la part d'un entraîneur, de pouvoir les challenger. De leur dire, bah, écoutez, je sais que vous avez des gros salaires, vous avez un statut à l'Olympique de Marseille. Et moi, je peux vous mettre des petits jeunes dans mes pattes. Et voilà, regardez le match qu'ils ont fait contre Nice, avec cette période qui était vraiment intéressante. Maintenant, c'est aussi l'esprit de compétitivité au sein d'un effectif. Ça va être intéressant de voir.
Il les a stimulés en quelque sorte, Adrien. Et Nasser fait du bon boulot, on a l'impression. Il est proche de ses joueurs, je sais pas, c'est comme ça qu'on peut le ressentir.
Tu parles
de l'extérieur. Nasser Larguen.
Ah, Nasser Larguen.
Oui, justement, il essaye de faire voilà, ce travail-là, peut-être qui a été oublié dans le temps par Villas-Boas, non ?
Oui, je pense. Bah, de toute façon, je pense qu'il y avait un vrai quart de discours entre Villas-Boas et Nasser. On l'a vu sur les dernières semaines, Villas-Boas avait voulu présenter sa démission déjà. On sentait que ça couvait un petit peu son départ et qu'il mettait plutôt son intérêt personnel devant celui du club avant même de partir. Donc déjà, on sentait que ça ne sortait pas très bon. Par contre, dans le discours de Nasser, il y a quelque chose de très positif, c'est que vraiment, lui, il se met en tant que serviteur du club. C'est-à-dire que lui, il n'est pas là pour son profit personnel, il ne fera pas de grande carrière d'entraîneur après l'OM, il est juste là pour remettre
le. Il a un rôle de papa, ouais, un petit peu.
Ouais, voilà, tout simplement. Puis c'est vrai que bon, certains supporters peuvent être un peu sceptiques au départ parce qu'il ne donnait pas forcément sa chance aux jeunes du centre de formation, mais voilà, je pense qu'il faut être patient. Nasser a su prendre la mesure de ce qu'il attendait. Il a quand même commencé avec un classico, notamment contre le PSG, après le match de Lens. Donc, il a fallu attendre que ça prenne, mais je trouve que son équipe contre Nice, il y a un visage qui est intéressant, et pour avoir contre Nantes, ça continue.
Alors, Toto, réaction.
Moi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Nasser Larguet, son CV, il est principalement fait sur la formation. Et là, on a vraiment la plus-value d'un formateur. C'est-à-dire que là, tout de suite, l'une des premières choses qu'il fait, c'est de mettre en avant les jeunes. Et c'est ça que je trouve intéressant avec lui. On verra dans un futur très proche comment est-ce qu'il va gérer justement ces autres joueurs qui ne sont pas issus de la formation et qui sont les joueurs un peu plus capés, comme les Milic qui vont arriver, les joueurs
Milik, cadres.
Milik, pardon, excuse-moi, je prononce mieux Hawik. Donc en tout cas, je trouve qu'il a cette posture assez, comme on le soulignait tout à l'heure, paternaliste avec les jeunes joueurs. Il leur donne justement tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir actuellement dans le contexte le plus difficile. Parce qu'on est vraiment dans un contexte de crise, il leur donne toute la confiance qu'ils méritent. Oui, et c'est ça qui a été.
Il va jouer à Bordeaux, il fait un classico, il va à Lens.
Ah, c'est ça.
Coupe de France à l'extérieur, c'est peut-être le seul trophée qu'ils vont jouer. Après, moi, je me dis, je sais pas si, j'ai lu un peu les news aujourd'hui. On annonce Sampaoli à la fin du mois.
Quasiment fait.
Ouais. C'est quasiment fait. Donc, je trouve ça dommage. Pour moi, ça aurait été, même si, Nasser Larguet, j'apprécie beaucoup, pour moi, ça aurait été le coach idéal de la transition. Donc, au moins, le laisser aller jusqu'à la fin de saison pour pouvoir faire émerger ces jeunes joueurs, comme l'a dit Toto, ces jeunes issus du centre de formation ou ces jeunes qui n'ont pas eu leur chance, pour pouvoir étoffer et donner le meilleur effectif possible à Sampaoli. Ouais. Après Sampaoli, j'espère qu'il ne va pas gérer l'OM comme il a pu gérer la sélection d'Argentine en donnant les pleins pouvoirs à Messi et entre guillemets le Messi de l'Olympique de Marseille, ce serait Thauvin, et négliger un peu. On va dire les talents émergents comme Icardi ou.
Alors, on va pas négliger notre invité ce soir, Adrien Mathieu, justement, fondateur justement de ces fameux podcasts dédiés à l'actualité des jeunes joueurs et centres de formation en France, Formation Football Club, justement. Comment se passe-t-elle cette génération et aussi ces jeunes pépites en France chez nous?
Ben justement, le but de Formation FC, c'est montrer qu'il y a plusieurs degrés, tendances différents dans la formation et que. Il n'y a pas de vérité en fait dans la formation.
Ouais.
C'est-à-dire que si un jeune joueur n'est pas forcément complet à 19 ans, ça ne veut pas dire qu'il sera un mauvais joueur. C'est-à-dire qu'à 27 ans, il va pouvoir être lent. Je prends l'exemple par exemple d'un Bruno Fernandes qui là est en train d'exploser totalement dans son équipe depuis un an, alors qu'il approche beaucoup plus de sa trentaine et que ce n'était pas forcément évident qu'il soit un grand, grand joueur au départ. Mais par rapport à ce que je peux voir en France, c'est vrai que il y a plusieurs tendances qui se dégagent. C'est-à-dire que les jeunes français sont très convoités à l'étranger, notamment l'acteur majeur de ces dernières années, c'est la Bundesliga, le championnat allemand, avec Leipzig, Mönchengladbach, même d'autres clubs comme Mayence et Leverkusen, qui sont très, très actifs, mais même sur des catégories comme U13, U15, en région parisienne, ils connaissent presque tous les gamins. Ils sont hyper actifs sur ce prospect, ce fameux scouting. Et c'est ce qui manque des fois au club français, c'est-à-dire d'être vraiment très très présent pour suivre ces jeunes joueurs. Après, voilà, c'est vrai que la formation française, elle excelle dans plusieurs clubs. Hein. Que Lyon, c'est la référence depuis 15 ans. Moi, je citerai aussi Rennes, Angers, Bordeaux, Toulouse, Saint-Etienne. Enfin, il y a plein plein de clubs qui se démarquent, mais il y a toujours ce danger de la tentation d'aller à l'étranger parce que le club allemand va arriver pour proser un énorme salaire à l'entourage de jeunes joueurs. Et des fois, ils sont pas
forcément
protégés pour faire face à ce phénomène.
Justement, ça a été assez bref et concis. Vraiment, Adrien Mathieu, un grand plaisir d'avoir réagi avec nous sur l'antenne de Beurre FM pour la première fois.
Où est-ce qu'on peut suivre, justement, Adrien
Mathieu? Il va nous le dire, justement.
Bah écoutez, le podcast est disponible sur à peu près toutes les plateformes de streaming audio, donc Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, Google Podcast. Voilà, cliquez sur Formation ST sur Google et vous trouvez assez rapidement.
Un grand merci, Adrien Mathieu, d'avoir été avec nous, d'avoir réagi sur l'antenne de Beurre FM. Nous, vous restez avec nous, les auditrices et les auditeurs. On revient de suite pour continuer avec cette fameuse Ligue 1 Uber Eats.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Eh oui, peu de pub en ce moment, c'est bien ça. Le coach Tolé, voilà, il a tout pris. On ne sait pas pourquoi. On s'est attardé sur l'Olympique de Marseille. Et aussi Toto Belozo, oui.
Je veux juste réagir sur notre invité.
Notre invité, Adrien Mathieu.
Il a évoqué un point intéressant, c'est que lorsqu'on survole le football, on a le sentiment que pour être l'un des meilleurs joueurs du monde, il faut être déjà très 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 fort entre 17 et 22 ans. Il faut savoir qu'ils sont... Ils sont très très peu, c'est même rare d'avoir des joueurs capables de durer sur 15 ans, exactement. Mmh. Et en général, comme partout, la progression elle se fait souvent à l'âge de 26, 27, 28 ans où le joueur arrive à maturité. Et en général, si tout se passe bien, entre 30 et 32 ans, comme un certain Benzema, même si c'est déjà un crack,
il a soulevé,
continue à exploser. On est souvent ah lui, il a 18 ans, il est pas si bon que ça. Non,
exactement.
Il y a d'autres aspects qu'on ne voit
pas. Ce qui se fait vite, se déclenche vite.
Exactement.
Faut pas oublier, ça marche. Bien sûr.
Très 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 belle phrase, Toto Belozzo. Non, mais pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Adrien, un peu sur ce qu'il dit autour de cette table, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Un joueur n'est jamais fini quand il a 16, 17 ou 18 ans. Il y a le retard morphologique à prendre en compte aussi, c'est très important. Il y a le fait que si c'est un petit joueur très technique et qui grandisse d'un coup, du coup, lorsqu'il aura acquis son physique, il sera en avance sur la technicité, notamment. Donc, et la projection aussi qui est intéressant. Donc voilà, faut jamais. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Moi, je pense qu'à la fin du bal, c'est même pas un âge en fait. C'est un parcours.
Mais
ça se tourne, ça se situe autour de 23-24 ans.
On est trop, justement, on souffre trop de l'impatience. Mm. C'est-à-dire que un jeune joueur qui aujourd'hui coûte zéro, sa valeur marchande est de zéro. Là, je suis dans la peau d'un club professionnel. La valeur marchande d'un joueur est de zéro. Ils se disent, ce joueur-là, selon nos calculs, selon nos prévisions, il pourrait valoir tant d'euros, tant de millions d'euros dans 5-6 ans. Donc il ne faut pas la rater. Donc on va tout de suite se focaliser sur lui et essayer de lui donner toutes ses chances. Sauf que ce joueur-là, eh ben, finalement, les calculs ne sont pas bons et ça ne donne pas. Et il y a un autre joueur.
Il y a une marge d'erreur énorme. Il y a une marge d'erreur énorme.
Mais bien sûr.
On a l'impression que c'est un peu. Enfin, c'est la formation de la boule de cristal. Alors que la projection, elle se fait non pas sur les qualités actuelles, parce que quand ils se projettent, ils prennent en compte les qualités, c'est le potentiel de la qualité observée. Ils ne prennent pas en compte le potentiel d'autres qualités qui ne sont pas visibles actuellement.
Qui sont les plus importantes.
Et qui sont potentiellement plus importantes.
Je prends l'exemple de Luis Enrique hier, qui fait son premier bon match, on va dire, sous les couleurs de l'OM. Qui a été titularisé dans les conditions que l'on sait. Moi, j'entendais encore il y a pas longtemps, Luis Enrique, l'OM l'a pris, on le considérait comme le futur Mbappé, donc tout de suite comparaison. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est Marseille. Il s'est trompé de poste. Non, il avait dit il joue, c'est un joueur plutôt de couloir. On parle d'un mec, par exemple, mais il y en a plein des mecs comme ça qui a 18 ans, qui arrive en Europe. Non, mais attends, t'arrives dans un cadre, on n'imagine même pas. Faut l'acclimatation. Enfin, il y a tellement de paramètres, comme l'a dit Mourad.
Exactement.
Ouais, sont tellement importants. Ce qui ne veut pas dire que ça sera un grand joueur. mais il y a tellement de paramètres qu'on ne voit pas, ouais, qui comptent tellement dans la carrière, et nous on se focalise sur le mec sur deux trois roulettes.
On peut être d'accord avec toi, c'est vrai, le coach Tolé.
Mais non, mais là Toto, concernant le cas Luis Enrique, Toto il a évoqué justement à travers le livre La Machine à broyer que les joueurs étaient peut-être exposés comme une bête de foire, comme des bêtes de foire ou comme des produits. Là en l'occurrence c'est un joueur étranger, Luis Enrique à Marseille, c'est clairement un produit. Ils l'ont acheté pour pouvoir le revendre au prix fort, tout simplement. Et Nasser Larguette aussi, même si il a un rôle assez paternaliste à l'Olympique de Marseille, s'il le fait jouer, c'est aussi par rapport à ça. Il le fait jouer, c'est aussi pour ces raisons-là, parce que il y a un trading en fin de saison qui va se passer, et je pense qu'il va falloir rentabiliser, peut-être soit en cette fin de saison ou la saison prochaine, mais il faut le faire jouer.
Allez, sort d'Europe, dans le nord de la France, c'est parti.
Time Sport. Le duel. Le duel.
Eh oui, les Lillois face à l'Ajax, justement. Le LOSC peut-il jouer sur plusieurs tableaux? Il faut savoir, hein, ces pépites qui montent. Eh oui, pépinière à talent, l'Ajax d'Amsterdam, qui s'est affirmé, Mourad, comme une référence en termes de formation. Eh oui, Toto Bellozzo est de post-formation, le coach Tolé. Et donc, c'est le futur adversaire, excusez-moi, en Ligue Europa, 16e de finale dès ce soir du côté du stade Pierre Mauroy.
Je sais pas ce que donne cet Ajax d'Amsterdam, cette nouvelle génération, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que quand on parle vraiment de référence en termes de formation en Europe depuis des décennies, c'est le club qui ressort. Barcelone dans un autre registre. En France, on a Lyon, ce qui est quand même pas mal depuis une dizaine d'années, mais l'Ajax, c'est culturel, ça date depuis une trentaine d'années. C'est impressionnant, et surtout quand on voit le petit pays que c'est, ça on l'oublie. Maintenant, est-ce que Lille peut le faire? Oui.
Après, je pense qu'il y a beaucoup d'absents côté Ajax Amsterdam. On a le gardien emblématique, Onana, qui est absent pour raison de. Je pense qu'il s'est pas soumis au règlement. Il s'est pas soumis au règlement de dopage. Il y a aussi Haller, qui bizarrement, pour l'Ajax Amsterdam, ça semble assez aberrant, qui n'est pas inscrit sur la liste de la Coupe de l'UEFA. Donc il y a aussi Mazraoui et d'autres joueurs qui sont absents, sans compter les départs observés la saison dernière, parce que quand Lille les avait affrontés en Ligue des Champions, l'Ajax leur avait donné, c'était pas la même équipe, et l'Ajax leur avait donné une leçon de pragmatisme et de réalisme, même si Lille avait quelques occasions en première mi-temps, mais l'Ajax, je crois que ça avait fini sur 3-0. Donc voilà, pour moi, il a deux enjeux ce match-là, c'est un, voir si vraiment le Lille, parce que là ils sont en tête de la Ligue 1, donc est-ce qu'ils vont privilégier le championnat et se dire j'ai la chance d'aller au bout en Ligue 1, donc je vais la saisir, et la Ligue Europa je vais la mettre de côté, et deux, c'est d'évaluer aussi le championnat de France, comment va se comporter le potentiel champion de France face à l'Ajax Amsterdam, certes diminué.
Ouais.
Moi je pense que il faut
ouais. Oui, Toto.
Juste une petite parenthèse. Je pense qu'il faut même pas se poser la question en réalité. Se poser la question si Lille peut le faire, c'est une question pour moi qui n'a pas lieu d'être. Lille doit le faire. Lille, quoi qu'il arrive, doit le faire. Parce que Lille est premier de Ligue 1. Et si on commence à se poser la question si notre premier de Ligue 1 peut battre une équipe certes emblématique en Europe, mais qui représente un pays grand comme l'Île-de-France, à un moment donné, moi je me dis, on est constamment, ne serait-ce qu'en se posant la question, en train d'évaluer, encore une fois, nos capacités. Et c'est ce qui souvent pêche chez nous, c'est qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas assez, on n'a pas assez envie de jouer. Et si Lille joue, alors même s'ils avaient été cinquième du championnat, j'aurais tenu le même discours, Lille doit jouer toutes ses chances, peu importe la configuration, on est dans un match de coupe et il faut le jouer à fond, point à la ligne. Maintenant, est-ce qu'ils ont les capacités de le faire? Évidemment qu'ils ont les capacités de le faire. Je pense que Lille est dans une dynamique et a aussi un effectif qui est capable largement de pouvoir bousculer une équipe certes
diminuée,
prometteuse et de qualité de l'Ajax, mais ils sont quand même en capacité
de le faire face au Milan AC. Ils l'ont prouvé il y a pas très longtemps. Le Milan AC, je crois que c'est 3 défaites sur l'année civile. Ils ont été quand même à San Siro les battre 3-0. Après, il y a quelques absents aussi côté lillois, mais il y a aussi eu des déconvenus par le passé. On se souvient des Kabbala, des Krasnodar, etc. Ça fait partie de. On a l'impression que c'est l'ADN des clubs français qui jouent en C3. Donc voilà. Donc je pense que ça va être une question de choix. J'ai l'impression que devant les médias, il y a un discours, on va la jouer à fond, etc. Mais derrière les rideaux, peut-être dans les vestiaires, le discours n'est pas le même. Peut-être qu'on sent moins d'impact de la part de l'entraîneur.
C'est bien dommage.
Peut-être que les joueurs lèvent le pied. On le voit aussi tout de suite dans le 11 de départ aligné. Quel message on envoie dans le 11 de départ aligné? Peut-être qu'on peut dire, si on aligne les meilleurs joueurs qu'on aligne en Ligue 1, ok.
Pour moi, c'est franco-français.
Pour moi, c'est valable. Mais si on aligne des potentiels espoirs, etc., dans des matchs comme ça, quel message t'envoie l'adversaire, quoi.
Oui. Tu en penses quoi, justement?
C'est
coach.
Ouais,
toi, c'est tous les matchs, les week-ends.
C'est paradoxal. Alors, c'est vrai que nous, en général, en France, on se plaignait.
Ouais, on a plutôt cette mentalité-là.
De la Ligue Europa.
Moi, tu fais bien d'en parler.
De la Ligue Europa, du jeudi, mais ça reste la Coupe d'Europe. Dans ce cas-là, tu dis en début de saison, moi, je ne veux pas jouer de Ligue Europa.
C'est pas une coupe au chocolat, la Ligue Europa.
Le jeudi soir, et je laisserai ma place à l'autre. Maintenant, la réalité aussi, c'est que Lille a l'avantage d'avoir un effectif de qualité.
Ils ont une profondeur premiers, de banc. Ils ont une profondeur
donc,
de banc aussi.
Donc, il peut se permettre d'avoir une équipe. Il peut faire tourner quand même.
Mais Toto, il a raison. Ils se doivent. Justement, c'est la vitrine de la Ligue 1. C'est, ils sont en tête. Ils se doivent d'aller jouer ce match d'Europa League.
Au foot, c'est pour ça. Enfin, quand tu rentres sur un terrain, il faut avoir cette envie de gagner, cette passion de jouer. Et ça, tu soulignes Bilal.
On le rappelle à chaque fois, Toto. C'est ça. On a nos clubs anglais, nos clubs allemands, on en a parlé avec l'invité ce soir, moi, Toto. Eh ben, à chaque fois, chaque jeudi, j'ai l'impression, tu fais bien d'en parler, le coach Tollé. À chaque fois, on a l'impression qu'on joue avec une coupe en chocolat, quoi. La Ligue Europa.
C'est assez fou quand même. Parce que c'est un cercle vicieux.
On arrive là,
Mourad. Est-ce que je privilégie, en fait, c'est toute une question, c'est le foot business, ça rejoint aussi le livre d'Éric Champel.
Mais alors, tu vas comme l'Olympique de Marseille, et tu fais rien en Ligue des Champions, c'est tout.
Non, mais si je délaisse le championnat et que j'accroche pas les places européennes, donc du coup, je m'assois sur une certaine rentrée d'argent, d'accord? Et donc, du coup, je n'ai pas intérêt à aller à jouer cette coupe
c'est de la frilosité
la compo justement. Alors, il va nous la balancer
tu te retrouves comme avec Maignan dans les buts sans surprise, Botman et Fonte dans l'axe, Reinildo et Celik sur les côtés, Sanchez Soumaré au milieu central, Bamba à gauche, Ouéa à droite et David Yazici, c'est ça, devant. Donc il y a quand même une équipe. C'est ça.
Ah, les deux joueurs, d'accord.
Ouais,
okay.
Devant.
Ah, je pensais qu'il était blessé. Il manque André et Sheka à la récupération, j'ai l'impression. Donc ouais, donc ça va. C'est une très très belle équipe. C'est l'équipe qui joue quasiment. Hormis André et Sheka au milieu de terrain, c'est quasiment l'équipe
qui joue
en Ligue 1 tous les week-ends.
Ouais,
donnons un petit peu de la grinta des joueurs de Bilbao, par exemple. Hein, cette envie d'avoir envie de jouer le match qu'on aborde, la compétition, de vouloir la gagner. Il faut qu'à un moment donné, cette frilosité ambiante qu'il y a dans ce championnat de France, qui a le potentiel pour aller chercher quelque chose de grand et de beau, d'être toujours dans cette frilosité de se dire, bon, on ne prend pas de risques. Il ne faut pas qu'on perde telle ou telle place, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour être européen, pour pas être relégué ou quoi que ce soit. Il y en a marre de cette mentalité.
Ouais.
Jouer!
C'est ça.
Jouer!
Le mot d'ordre.
Ce qui est insupportable, c'est qu'en fait, on sous-estime, on minimise la Coupe d'Europe comme si on l'avait gagnée 56 fois. Mais moi, c'est un truc de fou.
Ouais.
C'est-à-dire que ça, on ne veut pas le reconnaître.
Alors?
Mais on est fainéants.
On
se considère comme un grand championnat.
On est fainéants, alors, Mourad.
Les 5 grands championnats. Mais c'est le PSG, heureusement que t'as le PSG.
Ah, Paris fait honneur.
La réalité, c'est que le reste, c'est le désert.
Heureusement que t'as Marseille pour avoir une Ligue des Champions.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau attractivité, il faut aller chercher loin dans les archives, il n'y a que le PSG aujourd'hui. même si l'OM est le club qui a disputé le plus de finales de Coupe d'Europe français. Mais si tu regardes notre histoire en Coupe d'Europe, non, mais il y a quasiment rien. Combien de Coupes d'Europe gagnées? Et nous, on en parle comme si.
Il y a aussi.
C'est un truc de fou, ça.
Si on peut revenir
même
là-dessus,
le PSG,
Marseille.
Avant que j'oublie, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, avant que j'oublie, il y a aussi.
C'est magnifique, les poissons rouges.
Au niveau. Enfin, en Ligue 1, par rapport aux entraîneurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai été assez choqué quand Galtier a évoqué la prestation d'Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Donc on a l'impression qu'il y a un complexe d'infériorité de certains clubs français, et à chaque fois on est obligé de souligner, de mettre en avant la prestation du Paris Saint-Germain. Occupe-toi de ton équipe, Christophe Galtier. T'as un match à jouer contre l'Ajax Amsterdam. Pourquoi tu parles d'Mbappé? Ok, très bien, tu mets en avant le football français, on salue la prestation du Paris Saint-Germain, c'est historique ce qu'ils ont fait au Camp Nou, mais c'est pas ton équipe. Est-ce que vous avez déjà vu le Paris Saint-Germain ou d'autres équipes, je parle de Manchester United, Chelsea, entre eux dire « Ah, ben je salue la prestation de Liverpool qui est parti gagner à Madrid ».
Parce qu'on est dans une mentalité, tu le sais, en France où on dit à chaque fois « Oui, on doit faire… »
C'est le club français qui prime.
Je suis pour tel club, mais pour la Coupe d'Europe, je suis pour les clubs français.
Ben, c'est incroyable.
Chacun, ils sont libres, c'est
notre mentalité, c'est notre façon de faire.
Mais ça, tu le vois pas ailleurs. Et puis chacun sa mentalité. C'est vrai qu'en France, on a un petit peu de
je pense que l'énergie à prononcer cette phrase, elle aurait pu être mise au sein de son effectif ou dans un vestiaire. Ça crée un complexe d'infériorité de son effectif. Comment il le pense, Yazici, alors que lui, il est là, il essaie de se battre et de tirer son épingle du jeu. C'est le meilleur buteur d'Europa League. Il se dit, il a fait une déclaration pour un joueur d'une autre équipe, mais moi, peut-être qu'il ne m'a jamais évoqué en conférence de presse. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre.
Ouais.
Je suis peut-être un peu trop jaloux.
Non, quand même pas, Moura. Toto Bellozzo, avant la fin de cette émission.
Avant la fin de cette émission, moi j'attends qu'une seule chose. On est un palmarès européen, ouais. Français, beaucoup plus étoffé. Deux Coupes d'Europe sur 50 ans.
C'est pas beaucoup.
C'est strictement rien.
Une qui n'existe plus.
La Coupe Nottingham Forest. Nottingham Forest. Qui est aujourd'hui un club, enfin qui est quasiment plus.
Mais c'est honorable.
Non mais
en première chip, je pense.
Voilà, encore, mais qui n'est plus sur le devant de la scène. Mmh. Rien que ce club-là a deux Ligues des Champions. Donc
rien que ça.
Il faut que nous, à l'échelle de notre championnat, on ait quand même un peu plus qu'un club de championship.
Unai Emery avait plus de coupes d'Europe que toute l'histoire du football français quand même.
Voilà, on parle d'Emery. Hein. Ouais. Alors dans ce cas, si on parle de Mourinho, même à travers des mondes parallèles, il a plus de Ligue des Champions que le football français.
C'est pour ça que moi, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, dans le fond, ça ne me dérange absolument pas, et même je souhaite que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions.
Tu peux pas dire ça. Ça trois coupes.
Détache bien.
C'est le malheur du football aujourd'hui. C'est Bernard Tapie quand tu prononces cette phrase. Moi, ça m'a. Enfin, pour les supporters marseillais, je suis pas supporter de l'Olympique de Marseille. J'ai un peu d'affection pour le club, mais je trouve que c'est assez déplacé. Enfin, je m'imagine. Moi, je regarde beaucoup la première ligue.
C'est pas déplacé.
J'imagine pas un dirigeant
dans notre club. Football
français. Football international, moi.
Du supporter. Le supporter a une vision très étriquée, et quand tu parles de football français, il faut avoir une vision plus large.
Bien sûr. Elle a sa spécificité, justement. Le football français a sa spécificité, effectivement.
Eh oui, pas que. Le football anglais fait rêver, oui, c'est Mourad. Mourad, ce soir, nous a fait voyager avec Toto Bellozzo, et j'en remercie aussi notre coach Tolé, qui est venu tout droit. C'était pas de Slovénie ce
soir. De Belgrade. L'étoile rouge de Belgrade.
Magnifique. L'étoile rouge de Belgrade. Allez, 91, Paris, finale face à l'Olympique de Marseille.
La plus grosse école du football.
Marseille ne s'entraînait pas à ces fameuses séances de tir au but. Et Belgrade avait avancé, justement, par l'intermédiaire de son coach, durant la semaine précédant la fameuse finale, s'entraîner qu'au tir au but. Et vous connaissez la suite.
C'est Manu Amoros qui a raté le
coup. Manu, international français.
L'OM avait perdu contre l'Étoile Rouge de Belgrade, un petit club. Il faut savoir que c'était certainement le plus gros centre de formation.
Ouais, on entendu ici sur ce plateau.
Bien sûr.
Ça m'a fait mal.
Deux ans après.
Là, je me suis dit que FIFA avait pris le dessus.
Avant Bosman et avant la chute du mur de.
Surtout l'éclatement.
Tous les clubs, Belgrade, Bucarest.
Ça reste incroyable quand même.
C'était de très
La Yougoslavie, je pense que c'était le Brésil d'Europe. C'est comme
clairement,
ça qu'on,
ouais, clairement,
c'était assez intéressant. Clairement. En tout cas, un grand merci. La suite des programmes avec Café des Artistes et Mourad. Nous, on se retrouve dès demain à partir de 19h sur l'antenne de Beurre FM. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.